Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès et aujourd'hui Alexandre Cagzan à la technique de l'heure du crime. Et puis à la une de l'émission, le crime du Minitel Rose, l'affaire Sarrazin. C'est une affaire qui remonte à la fin des années 90, dont on va vous parler en la décryptant avec mes invités. Stéphane Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste de télévision, vous avez réalisé un documentaire pour W9 sur cette affaire qui a été diffusée, le film diffusé dans le cadre de Enquête criminelle, l'émission de Paul Lefebvre et de Sidonie Bonnec. Nous aurons tout à l'heure au téléphone Maître Jacques Dufour, avocat au barreau de Lyon, qui a été l'avocat d'une des deux victimes, puisqu'il s'agit, on le disait tout à l'heure, de deux crimes presque parfaits. Et puis, vers 14h45, on aura en ligne un confrère journaliste au Progrès de Lyon, Richard Chitli, qui a couvert l'affaire pour son journal, et avec qui on essaiera de tirer les enseignements, s'il y en a, en tout cas pas la morale, c'est sûr, de cette histoire épouvantable. Alors, Stéphane Boucher, s'il fallait trouver un titre pour un roman noir qui raconterait cette histoire, on pourrait dire 36-15 meurtre. Encore ça, faut-il se souvenir de ce qu'était 36-15.
Voilà, on a hésité entre 36, rendez-vous fatal sur 36-15 meurtre et les amants diaboliques du Minitel Rose. Donc c'était un peu dans le même esprit. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça renvoie au Minitel. Le Minitel qui était un objet fétiche des années 90.
Invention française.
Voilà, tout à fait. Et donc je pense qu'il faudrait dans un premier temps rappeler ce que c'était le Minitel.
Oui, ça fonctionnait, on va dire. Ça fonctionnait comme l'Internet, en moins rapide, il faut le dire. Ça coûtait plus cher.
Très cher.
Hein, puisqu'il fallait téléphoner, ensuite composer le 3615. On avait un petit écran, un clavier devant soi. Et après, on avait des sites alors pour se renseigner sur les horaires de train ou d'avion et plein d'autres choses, bien sûr. Et puis, il y avait ces sites de rencontres.
Bah, c'était un peu l'ancêtre d'Internet et des multiples sites de rencontres qui peuvent exister aujourd'hui sur le web. Et donc, il y avait une floraison de sites de rencontres à l'époque. Et en fait, cette affaire criminelle est abordée. Toile de fond, c'est ces rencontres un peu échangistes sur Minitel.
C'est l'histoire, en fait, on va le comprendre tout de suite, du naufrage d'un couple qui a été amené, pour des raisons évidemment qu'on a tenté de décrypter pendant le procès, qui a été amené avec une sauvagerie terrible et un machiavélisme extraordinaire à tuer deux personnes. Alors, d'abord, peut-être, est-ce qu'on pourrait dresser, comme on le fait d'ailleurs dans les meilleurs romans policiers, le cadre géographique et les principaux personnages. Le cadre, c'est un petit village qui est à 70 km au nord de Lyon, pas loin de Bourg-en-Bresse. Hein,
Voilà, donc c'est un village qui s'appelle Nurieux, qui est un village où on fait en général que passer, donc il n'y a pas grande activité.
À peine 1000 habitants à l'époque, hein, je crois.
Ouais. Voilà, et toujours aujourd'hui, donc c'est un petit village au fond d'une vallée dans l'Ain, où il y avait des industries, un peu une industrie plastique à une époque. Enfin, tout ce cadre est quand même un lieu où on sent un petit peu le désœuvrement général.
Ouais, voilà, une gare désaffectée, enfin bon, etc.
Voilà, pour planter le décor, c'est ça qu'on peut dire.
Et puis des pavillons, des petites maisons, et dans un de ces pavillons, plutôt une belle maison d'ailleurs, un couple apparemment totalement banal. Bah,
tout ça commence dans un endroit de la France profonde où il se passe pas grand-chose en fait, où un couple, lui est garagiste, elle est femme au foyer, donc vit dans la rue des Peupliers, ça s'appelle.
Vous êtes allé sur place.
Oui, sur place pour tourner le film. Et en fait, ce petit lotissement sans histoire, en fait, et ce couple vit là depuis quelques années, a construit cette maison et élève trois enfants de la manière la plus anonyme possible. Enfin, il n'y a rien de l'extérieur qui puisse laisser présager qu'une telle abomination puisse frapper cette famille, en fait.
Alors, elle s'appelle Daniel, il s'appelle Gilles. Il sera la première victime, mais là aussi, on est dans une sorte de polar incroyable, comme si quelqu'un avait fabriqué un scénario diabolique, parce que quand on va tenter et réussir de se débarrasser de Gilles, ce sera un crime parfait, en tout cas pendant pratiquement une année. Alors ça, on va découper ça tout à l'heure très finement pour expliquer comment le deuxième meurtre a emmené les enquêteurs enquêteurs à ce couple et à s'interroger sur la mort mystérieuse du garagiste qui était passé pour un accident de la route. Mais avant, je parlais d'un couple qui fait naufrage. En fait, il s'est passé quelque chose dans ce couple. Bon, c'est le désamour.
Enfin, c'est ce qui arrive à des milliers de couples, c'est-à-dire après des années de vie commune. Donc lui est très pris par son travail parce qu'il est garagiste, il a monté sa société de mécanique, il fait des dépannages à domicile, donc il est très très pris.
Ça marche plutôt bien, hein, gagne.
Oui, c'est quelqu'un qui vient de rien, qui vient d'une famille d'agriculteurs et qu'en fait, qui s'est plutôt orienté vers la mécanique et qui a monté sa petite entreprise, mais comme beaucoup de PME en province, il travaille beaucoup, il a pas d'horaire. Et donc, pendant ce temps, son épouse, Danielle, passe son temps à la maison, avec ses enfants, donc elle se néglige un peu. Enfin, c'est un drame tout à fait classique du désœuvrement.
En revoyant votre film hier soir pour préparer l'émission, j'avais la chanson d'Aznavour en tête, Tu te laisses aller. C'est exactement ça, elle se maquille plus, elle se balade à midi en peignoir, le soir au lit, il se passe plus rien.
Ben voilà, entre eux, c'est devenu un peu la glaciation, je dirais. Et donc, au fur et à mesure, le mari trouve qu'elle a un comportement bizarre, c'est-à-dire quand il rentre, elle est au téléphone, elle raccroche subitement. Donc il commence à se poser des questions sur le comportement de sa femme et surtout il voit arriver des notes de téléphone astronomiques.
Ouais.
Donc il charge la nounou de la famille qui est là en journée avec les enfants d'espionner sa femme en fait, de surveiller un peu ses allées et venues dans la journée. Et donc elle lui rapporte assez rapidement que sa femme passe des heures et des heures rivées sur le Minitel à l'époque, sur on ne sait quel site à ce moment-là.
Mais enfin, en tout cas, quand elle quitte le Minitel, elle s'habille plutôt sexy, elle se maquille très soigneusement, voilà, et elle disparaît pour quelques heures, quoi. Hein.
Voilà, elle quitte le domicile conjugal pour quelques heures, et donc c'est ce que rapporte la nounou au mari. Donc tout ça dure quelques semaines, voire quelques mois. Donc le mari commence à avoir quand même des doutes sur la fidélité de sa légitime. Et donc voilà, donc c'est le point de départ de toute cette histoire, en fait.
Oui. Alors j'ai lu aussi tout un dossier de presse, notamment sur cette affaire, où on suggère en tout cas que ce désamour, il est à deux sens quand même, et qu'ils ont chacun en fait décidé d'avoir leur propre vie. Ça correspond à ce que vous savez de l'histoire ou pas ?
Disons que, d'après ce qu'on a compris, le mari avait une aventure également, mais bon, la différence entre le mari et la femme dans cette histoire, c'est que la femme n'est peut-être pas trop discrète, c'est-à-dire qu'elle elle avait une façon de faire qui laissait pas peu de doute à ses activités extra-conjugales.
Vous avez interrogé un voisin notamment, hein, qui dit, bon, voilà, elle était habillée, il trouve pas ses mots, il dit comme une fille de joie, quoi. En fait,
hein. Ça, c'est venu un peu plus tard, mais en fait, les rencontres extra-conjugales se sont multipliées, donc avec des amants de passage. Et évidemment, Nurieux, c'est un petit village, donc ça a beaucoup cancané, ça a beaucoup jasé à cette époque-là.
Ouais.
Et donc, on a eu beaucoup de doutes sur la fidélité de la maîtresse de maison à ce moment-là.
Ouais. Et puis alors, un jour, physiquement, il y a un homme qui va arrivé dans cette maison. Il s'appelle Patrick, il est venu à moto, il a des blousons de cuir, il est exubérant, peut-être un peu mythomane. En fait, elle a rencontré Patrick sur Minitel et il se donne rendez-vous au domicile conjugal.
Donc ce Patrick, il est un peu loubard dans sa façon d'être, dans son look, un peu grande gueule, on pourrait dire en fait. Et c'est vrai que au fur et à mesure, les voisins vont arriver ce type-là qui se cache plus du tout en fait et qui vient rendre visites galantes à la maîtresse de maison en pleine journée dans le petit pavillon de Nurieux où le mari est absent toute la journée. Donc on lui rapporte des choses, donc ça. Il commence à y avoir pas mal de doutes sur tout ça à ce moment-là.
Voilà, là je crois qu'on a vraiment dressé le cadre de cette histoire, avec les non-dits, avec l'œil des voisins, avec la suspicion du mari, et puis il faut dire quand même surtout, mais ça on va en parler plus complètement dans un instant, c'est que entre Patrick et Daniel, il y a eu un coup de foudre, un vrai coup de foudre. Ils sont amoureux fous l'un de l'autre, et c'est peut-être à cause de cet amour fou que va naître l'idée d'un premier scénario criminel. Et si on se débarrassait de ce mari gênant ?
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, cette histoire de sexe, de mensonges, de vidéos ou de Minitel, en tout cas de Minitel rose qu'on a commencé à vous raconter avec Stéphane Boucher. Alors maintenant, on est au cœur de cette histoire qui va commencer. Et redisons-le, Stéphane Boucher, tout ce qu'on va raconter maintenant, en fait, les enquêteurs, les gendarmes l'ont découvert plus d'un an après. En tout cas, là, on est en 1994. Il y a ce coup de foudre. Alors, vous avez parlé un peu de ce Patrick. Il faut ajouter que c'est, paraît-il, un fanin de moto, mais non, je pense à autre chose, moi. Un fanin d'affaires criminelles, de faits divers. Il lit toute la presse magazine sur le sujet, tous les livres de Pierre Belmar.
C'est une encyclopédie du crime, en fait.
Et les romans noirs, quoi.
En fait, il s'inspire beaucoup. Il est passionné de romans noirs et d'affaires criminelles. Oui. Et il passe ses soirées à lire les livres de Pierre Belmar, qui était un des grands conteurs des faits divers de cette époque, en fait.
Alors, vrai ou pas, il va s'inspirer de certaines histoires que raconte Pierre Belmar dans ses livres pour commencer à vouloir se débarrasser de Gilles, mais ils vont s'y reprendre à 3 ou 4 fois, en fait.
Disons que dans cette période où Patrick vient à de nombreuses reprises rendre ses visites galantes à Daniel, en fait, le mari est agressé à plusieurs reprises, en fait. Notamment, un jour, on lui assène des coups de barre de fer sur la tête, il rentre en sang chez lui.
À son garage, ouais.
Un jour, il finit dans un accident de voiture très, très curieux, où il a un accident, il sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, tout ça émaille les quelques mois qui suivent la rencontre, le coup de foudre, ce que vous avez dit, entre Daniel et le fameux Patrick Sarrazin.
D'accord. Et il a eu déjà aussi des somnolents, tout ça. On découvrira après.
Il est pas tout à fait dans son état normal par moment. Oui. Donc, comme si on l'avait drogué. Enfin, tout ça vient s'accumuler aux suspicions du mari sur la fidélité de son épouse.
Alors un soir, Gilles rentre chez lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Patrick se trouve soit dans la chambre d'amis, soit dans le grenier, je ne sais plus. Et sa femme est très sympa ce soir-là. Elle lui propose, je suis désolé, il y a des amis qui ne savent pas ce que je fais à cette heure-là à la radio. Je coupe mon téléphone, désolé. Elle est très gentille, très très sympa avec lui. Elle lui propose un whisky orange.
Là, normalement, tous les soirs, c'est un peu la soupe à la grimace quand il rentre à la maison. Sauf que ce soir-là, madame est plutôt de bonne humeur et lui offre un whisky orange, sa boisson préférée.
En fait. Mais bourré de Temesta.
Ce qu'on découvrira plus tard, c'est qu'elle avait mis la dose sur les somnifères dans ce whisky. En fait, au bout de quelques minutes, il tombe du sommeil du juste. En fait.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, à partir de là, Patrick Sarrazin, qui est caché dans une des chambres sous un lit, sort de sa cachette et vient s'assurer que le mari est bien inconscient, qu'il se réveillera pas, et lui tire une balle
il
a une arme à feu, et lui tire une balle dans la tête à travers un coussin, en fait, pour
pas réveiller les enfants.
Voilà, déjà pour pas réveiller les enfants qui dorment à poing fermé dans la chambre voisine, donc pendant que leur père est assassiné. Et à partir de ça, le couple va nettoyer le lit.
C'est un épisode des experts, là,
voilà,
carrément.
Tous les indices, parce que comme Monsieur Sarrazin s'est inspiré beaucoup de la littérature policière, et notamment de la façon de réaliser le crime parfait, donc tout est étudié au moindre détail.
Il enlève ses empreintes, il dit à Daniel de continuer le ménage, et lui, il va s'occuper du corps, alors, dont on a entouré la tête d'un sac poubelle. Pardon, ces détails sont macabres et horribles, mais ça montre aussi, et ça a beaucoup, c'est peut-être pour ça que le tribunal ne leur a reconnu plus tard aucune circonstance atténuante, quoi. C'est glaçant, vraiment.
Tout est étudié au millimètre près, donc Sarrazin met le corps du mari défunt dans sa propre voiture, dans la voiture du mari, et s'en va vers une route un peu escarpée qui est à quelques kilomètres au-dessus de Nurieux. Il donc pousse la voiture, met le cadavre à la place conducteur, enlève le sac poubelle autour du crâne qui saigne, et pousse la voiture dans un ravin. En fait, elle tombe à 5-10 mètres plus bas, et le lendemain, on la retrouve, et évidemment, on pense à un accident de la route, parce que ces routes de l'Ain, en général, sont très très accidentogènes, et donc, c'est le début du premier volet de cette affaire.
Voilà, donc le matin, les gendarmes appellent la femme de Gilles, en disant, voilà, on a une très mauvaise nouvelle, elle s'effondre, évidemment, c'est le drame. Enfin bon, il y a les obsèques, et puis...
Il y a quand même une enquête judiciaire qui est menée, donc il y a un entrefilé qui est publié dans la presse locale en disant mortelle sortie de route. Voilà, donc l'affaire est très très rapidement classée, en fait. Il n'y a pas d'autopsie du cadavre.
Alors ça, c'est très important de le signaler, il n'y a pas d'autopsie, et on comprendra plus tard pourquoi j'insiste et je souligne ce qu'on va dire maintenant. le frère de la victime, le frère de Gilles, demande à voir le corps de son frère. Et on lui a dit que ça avait été un choc frontal et qu'en fait il était mort de s'être écrasé la tête contre le volant ou contre le pare-brise. Et lui, le frère, il voit une bosse, mais qui se trouve à l'arrière du crâne.
Donc il remarque une excroissance à la morgue, en fait, sur le corps de son frère, à l'arrière du crâne, en fait, comme une bosse, en fait, un hématome, en fait.
Oui, donc il se dit, mais expliquez-moi.
Et donc il a vraiment des doutes. En plus, il a, à l'époque, il sait que sa belle-sœur avait une liaison, donc il y a beaucoup de doutes. Donc la famille de Gilles Doyonnaz, donc ce garagiste de Lain, fait part de ses doutes à la gendarmerie, qui est à l'époque chargée de l'enquête sur l'accident. Et malgré ces doutes, quand même, qu'ils sont basés sur des choses assez sérieuses, je dirais, l'enquête est classée très très rapidement.
Voilà, et donc c'est pour ça que je parlais de crime parfait, en tout cas pour un an, parce que, il est enterré, l'affaire est, comme vous le dites, classée, personne ne s'est intéressé de près, surtout, il n'y a pas eu d'autopsie, on peut dire qu'il y a eu quand même là quelques, si on veut être charitable, dysfonctionnements à la fois dans l'enquête et...
Grave négligence.
Et grave négligence, bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Patrick va s'installer à la maison. Il a un très bon contact avec les enfants.
Hein. Bah, du jour au lendemain, quelques jours après les obsèques de Monsieur Gilles Doyonnaz, où curieusement l'épouse, la veuve, n'est même pas conviée par la belle famille, quand même.
Oui. Donc ça montre l'état d'esprit de la fête de belle famille.
Voilà, l'ambiance était assez poisseuse, j'imagine, à cette époque-là. Et quelques jours plus tard, Patrick Sarrazin, le fameux l'amant en titre de Madame Danielle Guillet, vient s'installer à la place du mort, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il prend la place du défunt. Ouais. Tout ça se passe bien parce qu'il s'entend plutôt bien avec les enfants. C'est quelqu'un d'assez chaleureux, de plutôt sympathique. Et donc, il s'installe dans ce petit lotissement à la place, en lieu et place du mort, quelques jours après la disparition et l'enterrement de la victime.
Et là, c'est la belle vie, c'est la grande vie. Mais il faut dire qu'elle a touché l'assurance vie, la prime d'assurance vie, quelques milliers d'euros quand même, quelques dizaines de milliers d'euros.
Que ça. En plus, elle a touché la moitié des parts du garage. Donc, petite somme qui est mise à disposition de la veuve pour la suite des événements.
Voilà, alors on change de meubles, on sort. Et également, il y a le côté sexe, hein, et
tout
dont il faut parler. C'est-à-dire que dans cette joyeuse vie, il y a aussi des soirées, des nuits, plus ou moins, enfin, plutôt plus que moins d'ailleurs, consacré à l'échangisme.
Oui, donc il y a les voisins remarquent dans ce petit pavillon des allées et venues le soir de jeunes femmes plus ou moins courvêtues, de couples, et donc on comprend qu'il y a des soirées échangistes qui se déroulent dans ce discret petit pavillon de Nurieux.
Alors ils continuent évidemment à consulter le Minitel, ça continue à coûter très cher, mais au début ils ont de l'argent, et il y a un moment, alors est-ce que c'est pour vous aussi l'explication de ce qui va se passer après, il y a un moment où l'argent vient à manquer. Et apparemment, ni l'un ni l'autre ne songe à travailler, quoi.
Disons que Patrick Sarrazin, c'est quelqu'un qui a pas vraiment de travail. Enfin, il a des petits boulots. Enfin, il a jamais beaucoup, vraiment travaillé de sa vie. Danielle Guillet, qui est femme au foyer depuis assez longtemps, n'a pas non plus d'emploi. Ouais. Et donc, c'est un peu la belle vie. Donc, il y a ces soirées un peu orgiaques qui se passent dans le petit pavillon. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure des semaines et des mois, l'argent vient à manquer. Et surtout qu'il y a des notes astronomiques de Minitel qui viennent se greffer sur le budget du couple.
Voilà, donc c'est dans ces circonstances-là qu'on peut mieux comprendre comment le deuxième scénario diabolique va germer à la fois dans l'esprit de Patrick, mais certainement aussi dans celui de Daniel. Je dis ça parce que on ne l'a pas dit, mais disons-le précisément maintenant, ils ont été condamnés, lui à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, et elle a été condamnée à 30 ans de prison, non pas comme complice du crime, mais la justice a tenu à inscrire ce terme, qui est assez inhabituel dans les cours d'assises, comme co-auteur des deux crimes. La suite, on vous la raconte, bien sûr, on continue à vous en parler avec Stéphane Boucher, qui a réalisé donc pour W9, pour l'émission de Paul Lefebvre et de Sidonie Bonnec, Enquête criminelle, un film qui a été diffusé avant l'été, sur cette affaire. Et puis, on va rejoindre également Maître Jacques Dufour, qui est avocat au barreau de Lyon. Pourquoi Maître Jacques Dufour? Parce que il a été l'avocat de la famille de la seconde victime, celle finalement par qui tout est arrivé, parce que c'est en enquêtant sur ce deuxième meurtre que le poteau rose a été découvert.
Vous écoutez RTL.
Un petit mot avant de reprendre le cours de notre émission pour vous dire que si une affaire criminelle vous a particulièrement marqué, vous pouvez nous contacter sur rtl.fr pour nous en parler de cette affaire, pour nous dire aussi pour quelles raisons elle vous a particulièrement frappé, en laissant des coordonnées bien sûr pour qu'on puisse vous joindre ensuite. Alors comment laisser ce message? C'est très simple, vous allez sur rtl.fr à la page de l'heure du crime et là vous vous laissez guider, vous avez un bouton soumettez une idée à l'émission et voilà, vous cliquez et puis vous nous expliquez tout ça et surtout, surtout n'oubliez pas de nous laisser quelques coordonnées pour qu'on puisse vous joindre parce que il peut y avoir des histoires très célèbres évidemment que vous souhaitez voir revenir à la une de l'émission. Il peut y avoir aussi des histoires que nous ne connaissons pas, à ce moment-là on a besoin de vous contacter. Voilà, et peut-être bientôt l'histoire qui vous a frappé sur l'antenne d'RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Sarrazin, le crime du Minitel Rose, Stéphane Boucher, journaliste de télévision qui a réalisé un documentaire pour Enquête Criminelle, est mon invité. Avec lui, depuis le début de cette émission, on vous raconte comme un polar, parce que c'est un polar, cette histoire incroyable. Et maintenant, on va prendre un autre éclairage, celui de Maître Jacques Dufour, avocat au barreau de Lyon. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Pradel, bonjour Monsieur Boucher.
Bonjour Maître.
Et merci donc d'avoir pris quelques minutes là cet après-midi pour revenir sur cette histoire. Vous avez été vous êtes l'avocat de la famille d'un jeune homme d'origine asiatique qui s'appelait Sébastien Faisan et qui a été la deuxième victime. Avant d'entrer dans l'incroyable scénario imaginé par ce couple véritablement diabolique. Qui était ce garçon?
Ce garçon, Sébastien, était un garçon sans histoire, un garçon âgé de 26 ans lorsqu'il a été tué. Mm-hmm. Il travaillait à l'époque, il avait une activité louable et dont il avait un peu honte puisqu'il ne l'avait pas dit ni à ses amis ni à ses parents. Il travaillait dans un sex shop à l'époque.
D'accord, pour avoir de l'argent. Il était étudiant en fait et pour avoir un peu d'argent.
Exactement, et pour avoir un peu d'argent, ouais. Bien, plutôt que de dire la vérité, il l'avait dissimulé. D'accord. Et il travaillait donc dans ce sex shop. Mais c'était un garçon absolument sans histoire. C'était un garçon dont tous les témoins et sa famille s'accordaient à dire que c'était un garçon charmant, serviable, généreux, courtois, gentil, sportif, j'en passe, mais vraiment un très bon, très bon garçon, très gentil garçon.
Et donc, il travaillait dans un sex shop de la ville de Lyon.
Malheureusement, ce qu'il a perdu.
Alors, ce qu'il a perdu en octobre, je me demande si je ne comprends pas les dates, c'est octobre 95, je crois. Hein.
C'est ça. Voilà,
octobre exactement. 1995, on va retrouver son corps à quel endroit? Vous pouvez nous situer l'endroit? C'est toujours dans la région de Bourg-en-Bresse. Hein.
Dans la région de Bourg-en-Bresse, oui, à une quinzaine ou vingtaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, en pleine campagne. C'est un promeneur qui a trouvé son corps dans un fossé le 13 octobre 1995, pour être très précis, au matin. Le corps sans vie de Sébastien.
Ouais, c'est une scène de crime d'une rare violence. Hein. Il a été abattu.
D'une violence inouïe, puisque lors du procès, le médecin légiste a expliqué que jamais de sa carrière il n'avait vu une chose pareille, puisque ouais. Sébastien a été littéralement exécuté. Il a été abattu de 4 balles. Dans la tête, une balle dans le cœur, exactement. Et après, c'est ce qu'a expliqué Patrick Sarrazin. Il n'était pas certain qu'il était mort. Et pour l'achever en quelque sorte, il a été chercher dans son coffre un poignard et il lui a tranché la gorge dans des conditions, dans des circonstances absolument épouvantables.
Alors, on revient à vous hein, pour pas. On va parler du procès de. Comment, enfin, c'est un drame évidemment épouvantable pour la famille de Sébastien qui a découvert tout ça alors que c'était un garçon, comme vous dites, sans histoire. Sébastien Boucher, peut-être revenir sur Stéphane Boucher, excusez-moi, revenir sur la mort de Sébastien, c'est-à-dire le scénario imaginé par Patrick et Daniel.
En fait, Patrick et Daniel étaient vraiment à court d'argent à cette époque et cherchaient un moyen de se défaucher, comme on dit en fait. Et donc l'idée trouvée par Patrick Sarrazin, comme ils étaient habitués des rencontres échangistes sur Minitel, c'est d'attirer quelqu'un en se servant de Daniel comme appât sexuel, je dirais, d'attirer quelqu'un dans les mailles de leur filet pour lui tendre un piège et en fait le dépouiller de l'argent qu'il aurait pu amener ou de sa carte bleue. Enfin, c'était un peu le plan diabolique.
Et c'est le plan qui va être donc mis en œuvre, puisque apparemment Sébastien répond à cette proposition, vraisemblablement d'ordre exhibitionniste. Quand on lui dit voilà, rendez-vous dans une forêt.
Non, en fait au départ il y avait rendez-vous dans un hôtel, donc c'était un peu le plan. Et finalement ils ont atterri dans une espèce de clairière, un peu à l'abri des regards.
Ouais.
Et il devait y avoir une rencontre un soir, et au dernier moment ça s'est pas fait en fait. Et le lendemain, Daniel a rappelé Sébastien pour lui donner rendez-vous le soir même et pour mener leur plan diabolique à exécution.
Voilà. Et alors donc on a reconstitué à peu près ce qui s'est passé.
Disons, quand on a retrouvé le corps de Sébastien, on s'est vraiment posé beaucoup de questions parce qu'il n'avait pas ses papiers, donc il a fallu l'identifier. En plus, il est asiatique. On a pensé à un règlement de compte dans le milieu asiatique. Ça a été une des pistes de travail des enquêteurs. Ouais. Et finalement, c'est le frère de la victime qui a dit mais mon frère m'a emprunté ma voiture le soir où il a disparu, donc il a été assassiné, pour aller rencontrer un couple qu'il avait rencontré sur Minitel.
Ah, il en avait parlé à son frère.
Et sur le cadavre, on a trouvé un petit mot avec les deux prénoms, Chantal et Bruno. Et en fait, en faisant une enquête technique, je dirais, comme on fait des enquêtes téléphoniques sur les appels aujourd'hui, à partir du Minitel, les gendarmes sont arrivés à identifier Patrick Sarrazin et Daniel Guillet, veuve d'Oyonnax.
Ouais, c'est-à-dire que c'était effectivement un crime presque parfait, puisqu'ils avaient, c'est le détail, hein, c'est le grain de sable qu'on trouve dans les romans polars, c'est que ils avaient effacé leurs traces, une fois de plus, à la manière des experts. Hein. Ils avaient nettoyé, on n'a pas trouvé d'empreinte de Patrick ni de Daniel sur la scène de crime.
Et puis ils ont essayé d'utiliser la carte bleue de la victime à qui ils avaient extorqué le code secret, le soi-disant code secret, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient tenté de faire des retraits, ça n'avait pas marché, parce qu'en fait Sébastien, avant de succomber, avait donné un faux code. Et la seule chose qu'ils ont trouvé dans son portefeuille, en lui volant ses papiers, c'est un billet de 100 francs. Et en fait, on s'est rendu compte que ce pauvre gamin avait été exécuté dans des conditions épouvantables pour 15 euros.
Quoi. Et ce qui est terrible aussi, et là je reviens vers vous, Maître Dufour, c'est à la fois, je sais pas, les mots manquent un peu, mais c'est la perversité, le côté diabolique de l'histoire, c'est qu'ils lui ont vraisemblablement vendu, entre guillemets, un scénario sadomasochiste en lui disant on va t'attacher, quoi. Et il a été, quand il a été exécuté, Maître Dufour, Sébastien était attaché, même si il lui avait retiré les menottes après.
Oui, c'est exactement ça. Et ça rappelle cruellement le précédent dossier, le précédent meurtre, puisqu'on a vraiment le sentiment qu'ils n'ont voulu laisser aucune chance au hasard. Tout à l'heure, vous expliquiez que Gilles de Menas avait failli être tué déjà deux ou trois reprises, en fait à trois reprises précédemment.
Oui.
Et plus on avançait, et plus le scénario était diabolique, et plus on voulait laisser la moindre chance à la victime. Oui. Et c'est ainsi qu'ils sont parvenus pratiquement à perfection, si je puis dire, pour ce qui concerne Gilles de Menas. Oui. Et c'est un peu ce qui s'est passé ensuite pour Sébastien. Ils n'ont pas voulu laisser de chance au hasard. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis d'abord en confiance. Monsieur Boucher expliquait qu'il était prévu que la rencontre se passe à l'hôtel. Dans un premier temps, il fallait... on a fait croire, en fait, que ça se passerait comme ça. Dans un premier temps, on l'a mis en confiance, donc on a dit qu'il fallait faire connaissance, en quelque sorte. Et puis, assez rapidement, on a expliqué qu'il serait bien qu'il soit menotté. Donc, il a été menotté. On lui a mis une couverture sous les genoux pour ne pas qu'il s'abîme les genoux. Et puis après, on lui a demandé... puis après, le mécanisme s'est mis en route. Et là, c'est l'horreur qui s'est mise en place, puisque... on lui a demandé sa carte, ensuite le numéro de carte, et ensuite, nous le savons, il a été froidement abattu.
Alors, je reviens à vous dans quelques instants, de toute façon, et aussi à... j'ai toujours envie de vous appeler Sébastien, c'est stupide, Stéphane Boucher, excusez-moi, parce que Sébastien Faisan, c'est le nom de cette malheureuse victime. On va, dans un instant, vous allez nous raconter ce que les gendarmes comment ils sont arrivés, parce que là, ils avaient Bruno et toi,
Chantal.
Chantal, bon, c'est évidemment des prénoms d'emprunt. Comment ont-ils fait pour arriver un jour à Nurieux, au domicile où se trouvaient Patrick, Sarrazin et Daniel? À tout de suite.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. L'heure du crime sur RTL.
Alors Stéphane Boucher, donc comment les enquêteurs sont-ils arrivés au couple diabolique et comment est-ce qu'on a découvert finalement le poteau rose du premier meurtre ?
Donc il y a ce petit papier qui est retrouvé sur le corps de la victime avec deux prénoms, Bruno et Chantal, et en fait il y a donc des investigations téléphoniques techniques qui sont poussées sur les appels, qui sont passées sur les appels téléphoniques et par Minitel. Mmh. Et là on cible la fameuse maison de la rue des Peupliers à Nurieux où habite Patrick Sarrazin et la veuve Daniel.
Voilà. Parce que l'hébergeur ou le propriétaire du site a pu fournir aux enquêteurs les moyens de retrouver la teneur des messages échangés entre Sébastien.
Il y a eu ça, et puis il y a eu des appels téléphoniques entre Sébastien et le couple. Donc techniquement, on remonte à cette petite maison dans le lotissement de Nurieux. À partir de là, le couple est passé sous surveillance pendant quelques jours et on se rend compte de plusieurs choses. C'est-à-dire que le Sarrazin s'était fait adopter de tout le village. C'est-à-dire qu'il avait pris la place du père et avait des activités dans les associations scolaires des enfants de Daniel, en fait, qui s'étaient fondus dans le décor, et en fait, comme si c'était monsieur et madame tout le monde. Oui. Et surtout, à la veille de leur arrestation, ils avaient organisé une petite fête dans le café du village. Ils avaient réservé la salle de la mairie pour annoncer leur future noce quelques semaines plus tard, leur mariage. Donc.
Et le lendemain matin, non pas à 6h du matin, parce que les gendarmes ont eu la délicatesse de laisser partir les enfants à l'école, et une fois que les enfants ont quitté la maison, ils sont arrivés, ils ont interpellé donc le couple et ils ont procédé immédiatement à une perquisition, et en quelques minutes finalement, enfin assez rapidement, ils ont su qu'ils étaient en face
fait bingo, parce qu'en fait ils ont trouvé de nombreux éléments, notamment des cassettes vidéo qui appartenaient à la victime, des cassettes pornographiques, qui avaient beaucoup d'accessoires à caractère sexuel, l'arme du crime, enfin il y a eu
le couteau, couteau avec du sang qui n'avait pas été nettoyé, donc qui était là. Ils avaient donc tous les éléments, et évidemment ils sont passés aux aveux
assez rapidement.
Alors je reviens à vous, maître Dufour, parce que bon, voilà, on a raconté la trame de l'histoire. Évidemment, on a compris qu'à partir de là, les enquêteurs vont chercher dans le passé du couple s'il n'y a pas eu d'autres victimes, parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Hein. Est-ce que c'est Sébastien, est-ce que c'est le premier, est-ce qu'ils en ont pas fait d'autres, des victimes, et on va tomber sur cette histoire.
La justice se rend compte avec effroi que le mari avait disparu dans des circonstances suspectes, quelques mois plus tôt.
Oui, mais il y a une précision importante quand même. Vous venez de dire que les gendarmes sont intervenus le lendemain matin. En fait, non. Et c'est ce qui est absolument incroyable dans cette histoire, c'est que les gendarmes ont procédé à l'interpellation des deux prévenus quelques jours plus tard. Le lendemain, ils ont poursuivi leur vie comme si de rien n'était. À telle ancienne que le lendemain matin, Daniel Guillet a préparé, dans la perspective d'une soirée échangiste, elle a préparé tranquillement une tarte, que le soir même, eh bien, ils ont participé avec un autre couple à une soirée échangiste, comme si de rien n'était.
Le
plus sidérant dans cette affaire, c'est que la vie a continué tout à fait normalement.
C'est-à-dire, ils sont rentrés chez eux après avoir tué sauvagement ce garçon, ils ont passé la nuit à regarder les cassettes porno qu'ils lui avaient volées, et ensuite ils ont repris le cours de leur activité comme si de rien n'était.
C'est ce qui a quand même marqué les esprits.
Et
ça aussi c'est incroyable, comme l'opération en quelque sorte avait échoué, eh bien ils avaient projeté de recommencer ultérieurement, assez rapidement même, avec d'autres
D'autres victimes, on en a eu la preuve de ça.
Oui, Oui. Et en prenant soin de choisir des cibles qui avaient des cartes American Express, parce que Sarrazin considérait que c'était une carte qui permettait d'avoir plus de disponibilité.
Je reviens à vous dans un instant, Matt. Mais alors donc, terminons maintenant, Stéphane Boucher, sur... on exhume le corps à ce moment-là de Gilles, le mari garagiste.
Donc à ce moment-là, la justice ordonne l'exhumation du corps de Gilles, qui fort heureusement n'avait pas été incinéré, mais avait été enterré au cimetière du village, dans le caveau familial. Oui. Et là, on découvre, lors de l'autopsie qui a enfin pratiqué dans cette affaire, que Gilles Doyonnas a été exécuté d'une balle dans la tête et qu'il n'est pas mort dans un accident. On a retrouvé la balle à l'intérieur du crâne, alors qu'il y avait quand même des éléments sur l'accident. Ouais. Il n'y avait pas de traces de freinage, il n'avait pas bu ou très peu bu, donc il y avait quand même des éléments qui laissaient à penser au départ que l'affaire n'était pas très claire.
Et c'est l'explication de la bosse que le frère de la victime avait vue. Cette bosse, c'était la balle qui n'était pas sortie du crâne.
En fait, c'était une excroissance sur le crâne qui correspondait au tir de la balle qui avait été, qui avait été fait par Sarrazin pendant le sommeil de la victime.
Alors, Maître Dufour, comme vous êtes le seul parmi nous à avoir assisté au procès qui a eu lieu en 99, comment sont apparues ces deux personnes devant les jurés? Est-ce qu'il y a eu des excuses, des regrets? Comment se sont-ils présentés?
Je dirais simplement mal, pour ne pas dire très mal. Non, justement, pas d'excuses, pas de regrets, pas de remords, rien. Aucun sentiment de culpabilité. Quelque chose de très étonnant. Ils ont surtout cherché l'un et l'autre à se rejeter un peu la responsabilité. Mmh. Et là, on a une évolution au cours du dossier qui est un peu surprenante, puisque au départ, ils étaient vraiment très liés dans leurs déclarations. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Mmh. Et puis au fur et à mesure des débats, ils se sont comportés complètement différemment.
Ouais, c'est-à-dire que Daniel disait, il m'a manipulé.
Exactement.
Moi, j'ai rien fait.
C'est
pas moi qui ai tiré, c'est pas moi qui ai eu l'idée, etc.
Ouais, voilà, j'ai subi, j'étais sous la dépendance, sous l'emprise, sous la soumission de Sarrazin. Et lui, de son côté, expliquait que tout ce qu'il avait fait, c'était uniquement par amour, c'était pour la protéger. Alors ça pouvait éventuellement se comprendre pour l'assassinat de Doyonnas, puisque le prétexte, c'était que celui-ci se montrait violent avec son épouse.
Ce qui était une fable. Ce qui était une fable. Ou pas?
Oui.
Inventé par Daniel.
Très certainement. Mais il était gênant, le mari. Il était gênant, donc il fallait s'en débarrasser. Le moindre prétexte était bon pour y parvenir. Donc ça pouvait se comprendre, cette thèse pouvait se comprendre pour ce qui concerne Doyonnas. En revanche, pour le pauvre Sébastien, il n'était pas question de sauver ou de protéger Daniel Guillet. Il n'y avait absolument aucune raison. Mmh. Et donc c'est là qu'on a compris que les versions qui nous servaient ne correspondaient pas du tout à la réalité.
Et donc le verdict était à la hauteur de ce que vous aviez demandé ou
le verdict manière dont est cohérent parce que on peut que alors c'est intéressant parce que elle n'a pas été considérée comme complice
et comme co-auteur.
Nuance, voilà, exactement. Ouais. Elle a été considérée comme co-auteur. Alors certes, il y a une petite différence au niveau de la sanction, puisque lui a été condamné à perpétuité à 30 ans, parce qu'on a considéré qu'il avait peut-être eu un peu plus d'influence.
Et 30 ans, pardonnez-moi, c'était 50 plus que ce que la réquisition de l'avocat général demandait.
Oui, exact.
C'est très rare qu'une femme soit condamnée à une peine criminelle aussi lourde.
Une peine extrêmement sévère, mais qui est à la mesure, à la hauteur des actes épouvantables que l'un et l'autre ont commis.
Dernière question, Maître, avant la dernière pause de l'émission. On a commencé en disant que c'est un cas d'école, c'est une affaire, une des plus machiavéliques de ces 20 dernières années. Pour vous, dans votre carrière d'avocat et de pénaliste
Je n'en ai jamais vu. Identique, je n'en ai jamais vu, et je ne pense pas, et surtout j'espère, ne jamais avoir d'aussi sordide que celle-ci.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas merci infiniment d'être revenu sur le contexte de cette affaire. Une pause maintenant, et puis on retrouvera Richard Chitli, donc journaliste au Progrès de Lyon, qui a couvert l'affaire pour son journal, et avec lui avec Stéphane Boucher, on va s'intéresser à ces relations très particulières d'un couple où tout commence par un coup de foudre et tout se termine par une horreur.
Vous écoutez RTL.
Un petit mot pour vous dire que si vous êtes frustré là en ce moment, vous venez de prendre l'émission il y a quelques minutes, vous dites mince, j'ai raté le début. C'est pas grave. Vous allez sur rtl.fr et vous pouvez toujours, à tout moment, quand vous le désirez, réécouter l'émission du jour ou l'enregistrer, c'est-à-dire la podcaster. C'est valable évidemment pour l'émission du jour et pour toutes les autres émissions que vous souhaiteriez réentendre un jour ou l'autre. Donc n'oubliez pas, ça se passe sur rtl.fr.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Le crime du Minitel Rose, c'est comme ça qu'on en avait parlé à l'époque et à juste titre de cette affaire que nous venons de vous raconter longuement avec Stéphane Boucher et avec maître, l'avocat donc qui était l'avocat de maître Jacques Dufour, l'avocat de la deuxième victime. On va maintenant à Lyon pour retrouver Richard Chitli. Bonjour Richard.
Bonjour Jacques.
Alors vous avez suivi vous non pas le procès mais l'affaire hein, pour votre journal. Maintenant on connaît les personnages, on connaît les scénarios, on connaît les tenants et les aboutissants de l'histoire. Moi j'aimerais revenir avec vous sur ce qui fait l'originalité de cette histoire criminelle.
C'est un crime, j'allais dire dès le départ, qui apparaît comme hors du commun. J'ai le souvenir de la découverte de la scène de crime racontée par les enquêteurs. Et c'est vrai, quand ils vont tomber sur cet étudiant abandonné en bord de route, avec la gorge tranchée d'une manière assez sauvage, ils vont se rendre compte tout de suite qu'ils ont affaire à quelque chose de hors du commun, quoi. Hein. Dans la manière de faire, dans la rage un petit peu qui a été utilisée. Alors, c'est vrai que le lieu se prête un petit peu à des affaires sulfureuses. C'est un lieu de rencontre. Il y a des couples qui se donnent rendez-vous dans cet endroit-là, à la sortie de Bourg-en-Bresse. Mais bon, ça va au-delà de l'aspect sulfureux. Il y a quelque chose derrière. Et la suite va le confirmer, avec l'arrestation de ce couple, où on va se rendre compte qu'il y a eu une véritable mise en scène, j'allais dire sordide et macabre, hein, avec cette mise en scène sexuelle, cette exhibition de cette femme manipulée par son amant. Donc là, on est vraiment dans une affaire criminelle qui sort du lot, quoi.
Oui, alors, ce qui sort du lot aussi, Richard Chitli, c'est le couple, quoi. C'est-à-dire que on a rappelé à plusieurs reprises qu'elle avait été jugée comme co-auteur. Oui. Bon, elle a pris 30 ans de réclusion et lui a été condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Mais pour vous, le fonctionnement de ce couple est aussi hors norme.
Bien sûr, et les gendarmes découvrent ça. Alors, en apparence, ils vont tomber sur un couple qui vit une vie sans histoire dans un petit lotissement d'un petit village du département de l'Ain, et ils vont découvrir le fonctionnement d'un couple qui est véritablement un fonctionnement diabolique, hein, où l'un et l'autre vont se compléter, il va y avoir une sorte d'émulation entre eux. Donc le premier crime le révèle, hein, la mise en scène avec cet étudiant, et puis la révélation du crime qui avait été masqué par un accident de voiture. Alors là ils vont littéralement tomber des nues. Et dans l'histoire criminelle de l'Ain, c'est effectivement, ça rentre dans les grandes affaires criminelles, hein, du département de l'Ain. Cette façon d'avoir élaboré un piège machiavélique, hein, on peut parler de ça, ouais, à ouais. Deux.
Voilà, on manque d'adjectifs finalement pour définir ce qui se passe. Alors, je vous remercie, mais il y a une question que je vous pose et que je pose en même temps à Stéphane Boucher. Il y a pour moi un grand point d'interrogation dans cette histoire. Est-ce que ce coup de foudre était un vrai coup de foudre, n'était pas à sens unique? Est-ce que Stéphane, il y avait un vrai amour entre ces deux personnes, quoi?
C'est incontestable, en fait. Pendant la période de détention provisoire qui a duré 4 ou 5 ans, parce que l'instruction a été très très longue, Patrick Sarrazin envoyait des lettres enflammées avec des petits dessins, des fleurs, à Daniel, en fait, et une sorte d'amour un peu adolescent, un peu enflammé. Ouais. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte, parce que ces pièces ont été versées au dossier d'instruction, on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là que de la sincérité des sentiments que portait Patrick à Daniel. Par contre, Daniel n'a jamais répondu à aucun de ses courriers.
Et elle préparait le procès.
justement, ouais. elle l'a chargé, ouais. elle a essayé de ouais. se défausser sur lui lors de l'audience. Ouais. Et en fait, disons que c'était un amour qui allait dans un sens et peut-être ouais. pas dans l'autre.
En tout ouais. cas, à la fin. Mais Richard Schitty, je vous donne le mot de la fin en même temps. On peut se demander si ces lettres en amouré n'étaient pas une manière aussi de préparer le procès pour Patrick.
Bien sûr, je pense qu'il y avait une dimension tactique et stratégique. Hein. Après, le couple devait calculer la suite des événements et devait calculer le procès. Et chacun se déterminait en fonction des enjeux qui étaient très lourds. Donc c'est vrai que l'amour se diluait dans une autre question à ce moment-là, hein, je pense.
Voilà, depuis, vous n'avez pas eu d'affaires aussi fortes hein, dans votre
région. Alors, oui,
il y en a une autre toujours, que, oui, ben voilà.
Ah oui, le département de l'Ain mériterait une étude criminalistique. Ouais, ouais. Bon. À cette époque-là, il y a de nombreuses affaires qui sortent du lot. Il y a eu l'affaire du faux docteur Roman, vous le savez.
Ah oui, bien sûr.
C'est dans cette période-là, dans ces secteurs-là. Donc, il y a vraiment une étude à faire.
Bon, écoutez, on va la faire. Merci en tout cas, merci infiniment. C'était donc Richard Schitty, qui est journaliste au Progrès de Lyon. En vous disant au revoir, Stéphane Boucher, je voudrais signaler que l'émission dont on a parlé, puisque vous avez fait votre film pour W9, pour l'émission Enquête criminelle, de Paul Lefebvre et Sidonie Bonnec, l'émission, c'est le mercredi.
Voilà, donc c'est à suivre demain soir sur W9.
Voilà, allez-y de notre part, Paul Lefebvre est un garçon charmant. Il vous accueillera bien. On vous retrouve, l'émission est maintenant terminée. On se retrouvera demain, mais dans un tout petit instant, on ira faire un tour du côté du studio de Flavie Flamand.